Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. C'est un petit événement à l'échelle de la planète. Chaque année, la République d'Irlande remet à l'une de ses 900 communes le prix Tidy Towns. Au départ, il ne s'agissait que d'une récompense pour les villes les plus propres. Mais aujourd'hui, les juges veulent surtout mettre en avant les élus qui ont une vraie démarche de préservation de l'environnement en lien avec les associations locales. Cette année, c'est Skerries, au nord de Dublin, qui a été récompensé. Le prix peut paraître symbolique, 10 000 euros, mais il apporte surtout une vraie notoriété et peut-être des visiteurs. C'est le reportage de Julien Lagache.
Voilà, on aperçoit l'île Saint-Patrick. On l'a appelée comme ça parce que c'est là que Saint-Patrick aurait posé le pied pour la première fois en Irlande.
À quelques brasses de la côte, on aperçoit ce bout de terre et quelques petites îles. Elles font partie d'une zone naturelle protégée.
Juste à côté, vous apercevez le phare de Rockabilly. C'est le site le plus important de reproduction des sternes de Dougal en Europe. C'est une zone de conservation. Chaque année, on y compte les oiseaux et on vérifie qu'ils vont bien.
D'ailleurs, ce qui frappe dans cette petite ville de 10 000 habitants, entourée par la mer à l'est et au nord, et bordée par la ligne ferroviaire Dublin-Belfast à l'ouest, c'est l'omniprésence de la nature, sans doute l'une des raisons qui pousse régulièrement Maeve McGann et ses amis du comité local Tidy Towns à mettre en place des idées en faveur de l'environnement.
On a organisé des ruelles pour qu'elles deviennent des couloirs accueillants pour la vie animale, avec des fleurs sauvages, pour préserver les abeilles et les papillons. Dès qu'on a un espace libre, on essaie d'y encourager la nature plutôt que de laisser en friche, ce qui permet aussi à des animaux tels que les souris ou les renards d'avoir des endroits où circuler en sécurité.
Les juges du concours Tidy Towns ne s'y sont pas trompés. Skerries profite non seulement d'un cadre exceptionnel, mais aussi d'un fort engagement citoyen. Depuis 2009, l'initiative Adopt a Beach fait des merveilles sur la plage. Des familles, des groupes ou des individus peuvent en quelque sorte parrainer un espace de sable dont ils sont responsables. Les écoles locales encouragent les enfants à y participer. Et tout le monde est invité à mettre la main à la pâte pour faire évoluer la ville. Cette année, les commerçants réfléchissent aux façons d'économiser de l'énergie. Une satisfaction pour Martin Scully, coiffeur et président de la chambre de commerce, ravi que chacun œuvre à son niveau.
Entre la chambre de commerce et le comité Tidy Towns, il y a des tas de petits groupes très actifs, comme les associations d'art et d'histoire de tourisme. Nous sommes tous impliqués, même si on n'assiste pas à toutes les réunions, il y a un tissu associatif fort, et c'est ensemble qu'on a remporté le concours.
Autre fierté de Martin Scully, le jardin écologique Floraville, voisin de l'incontournable bibliothèque Carnegie, financé par des fonds locaux et européens, il a vu le jour en lieu et place d'une maison abandonnée depuis les années 80. Il est ouvert à tous, notamment aux enfants, et surtout il a été dessiné bénévolement par un architecte de Skerries, un peu comme Anthony Eyenga, ingénieur du CRU, qui voyage beaucoup mais qui consacre du temps à une plantation de saules située près des anciens moulins. Elle a plusieurs objectifs.
Il y a deux avantages. D'abord, les arbres captent jusqu'à 5% de CO2 dans l'atmosphère, qu'ils transforment ensuite en énergie. En hiver, on récolte le bois, et l'intérêt du saule, c'est qu'il repousse vite, et qu'avec les nouvelles variétés, on pourrait produire près de 100 tonnes de bois pour alimenter les chaudières d'hôtels ou de résidences.
Cette initiative est pour l'instant au stade expérimental, mais elle offre de belles perspectives. Réduction de la dépendance énergétique aux carburants fossiles, création d'emplois locaux et circuits courts de production, dans le même esprit que les jardins partagés bio et autosuffisants en eau situés non loin. Autant de projets distingués à plusieurs reprises par les juges de Tidy Town, et qui ont créé une relation étroite entre les associations, les volontaires et les pouvoirs publics. C'est aussi ce qui a plu aux juges de Tidy Towns. Pourtant, nombreux sont les habitants qui ignorent de quoi il s'agit. Simon et Anna ont juste entendu parler d'un titre honorifique.
C'est à propos d'un concours de propreté pour garder les rues propres. C'est tout ce que je sais. Enfin, c'est ce que je croyais.
Non, je suis désolée, je ne saurais pas vous dire. Je ne suis pas là souvent. Mais je crois que c'est parce qu'on s'occupe bien de nos monuments et de nos fleurs.
Un déficit de publicité donc pour les quelques 300 volontaires impliqués à tous les niveaux, même si Claire, une coiffeuse qui a toujours vécu à Skerries, reconnaît des efforts visibles.
On voit bien qu'il y a des gens qui ramassent les déchets, qui repeignent les bancs et s'assurent que tout reste propre. À l'évidence, c'est moins le travail d'une majorité que d'une poignée de gens, mais je pense que tout le monde apprécie ce travail, même si on n'en a pas vraiment conscience.
Skerries se forge donc une nouvelle réputation, grâce notamment à la récente couverture médiatique. La station balnéaire, ancien camp de vacances de masse très prisé des Britanniques après la Seconde Guerre mondiale, a repris des couleurs, du vert surtout, ce qui attire de nouveau promeneurs, touristes et vacanciers.
Pas très exemplaires en revanche, ce sont ces quatre lycées privés de Sicile, épinglés par la police pour avoir vendu pendant 10 ans des titres de baccalauréat au prix de 3500 euros. L'arnaque était bien rodée et des centaines d'étudiants sont concernés à Palerme, Cécile de Barge.
Il aura fallu l'opération Diplomate et près de 2 ans d'enquête de la police de Raguse pour démanteler un vaste réseau de faux diplômes. Les conclusions de l'enquête ont permis d'identifier des irrégularités dans au moins 4 provinces siciliennes, Raguse, Syracuse, Agrigente et Catane. L'arnaque était la suivante. Chaque année, en échange de 3500 euros, une centaine de lycéens d'instituts privés se voyaient offrir sur un plateau le diplôme du baccalauréat. Faux relevés de notes, faux examens d'admission, faux registres de présence et surtout des conditions un peu particulières pour passer l'examen. En plus de la complaisance des surveillants aux épreuves qui n'hésitaient pas à donner un coup de pouce, l'usage des téléphones portables était autorisé, tout comme celui des antisèches. Et pour les matières plus difficiles comme l'italien, les sujets étaient simplement envoyés par mail au préalable quand les élèves n'avaient pas carrément les feuilles avec les solutions déjà cochées. Pour gérer cette petite affaire, un couple de fonctionnaires se faisait délivrer de faux certificats médicaux pour s'occuper de leur structure sur leur temps de travail. Une affaire rentable puisque les bénéfices encaissés sont estimés à plus de 2 millions d'euros. Si le coup de filet a permis de mettre en cause près de 80 personnes, il a surtout inquiété de nombreuses associations de parents d'élèves siciliens qui ont peur que l'affaire jette le discrédit sur toute la région. Ils ont d'ores et déjà demandé d'étendre l'enquête à toute la Sicile pour démasquer d'éventuels autres faussaires.
Des jeunes diplômés à la peine en Bosnie, dans ce pays des Balkans, le taux de chômage des moins de 25 ans est un des pires d'Europe, 65,3%, si bien que près de la moitié de la population a préféré émigrer. Mais pour ceux qui ont choisi de rester, qui arrivent à décrocher un emploi, les conditions sont souvent bien en deçà des minima légaux. La nouvelle loi travail souhaitée par l'Union européenne et qui garantit des heures et des jours de repos est loin d'être toujours respectée. Minuscule salaire, horaires à rallonge, sans cotisation sociale, sont légion. Reportage à Sarajevo, signé Mercia Nezic.
Azra est vendeuse dans un grand magasin de Sarajevo. Elle a de la chance, dit-elle, d'avoir un jour de congé par semaine. D'autres employés peuvent se reposer seulement un dimanche tous les 15 jours ou travailler sans jour de repos du tout à certaines périodes au bon vouloir de l'employeur. La situation est presque banale, vous diront les Bosniens qui ont l'habitude de croiser tous les jours, sans interruption, les mêmes vendeurs, les mêmes serveurs dans leur quartier. Si Azra peut se reposer une fois par semaine, en revanche, elle n'a pas d'horaire.
Pour moi, c'est de l'esclavage. Quand il y a des inventaires, on reste quasiment toute la nuit. On travaille la journée précédente pour préparer la marchandise. La nuit qui suit, on fait le comptage des produits jusqu'au matin en général. Puis on va dormir quelques heures à la maison et on revient bosser l'après-midi. Avant, c'était bien. Le travail de nuit était payé le double. Plus maintenant. Une fois que l'inventaire est fait, si des produits ont été volés par des clients, nous, les employés, on les paye. C'est prélevée sur nos salaires.
Elle est ainsi pénalisée quasiment tous les mois et du coup Azra ne touche que la moitié de son salaire de 300 euros. 300 euros, c'est au-dessus de la moyenne des salaires dans le privé en Bosnie, mais c'est aussi le prix d'une location d'un modeste appartement à Sarajevo. Du coup, Azra ne va pas loin avec ses 150 euros. Ses parents ne travaillent pas, elle habite encore chez eux à 35 ans. Comme son compagnon, qui est aussi hébergé chez ses propres parents. Maigre consolation, si Azra se retrouve au chômage, elle aura des indemnités, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de Bosniens qui travaillent au noir. Armin est ouvrier qualifié et ne travaille qu'en intérim, rarement plus de 6 mois, selon les besoins de son employeur.
On rencontre l'employeur, on tombe d'accord pour être déclaré, pour qu'il cotise pour la sécu, pour la retraite. On se met d'accord aussi sur un salaire minimum. Et puis quand on se présente pour travailler, l'employeur ne nous déclare pas. Il nous laisse travailler sans rien dire. Ça peut durer comme ça des jours et des mois. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai travaillé au noir pendant 2 mois. Puis on a eu la visite de l'inspection du travail. Il a été obligé de déclarer certains d'entre nous, mais pas tous. Quand il y a des inspections, il trouve une solution pour que le patron paye une amende sans déclarer tout le monde. Et ces inspections sont rares.
Le travail au noir est très répandu dans le pays. Bizarrement, des entreprises sans salariés déclarées dans le secteur du bâtiment peuvent afficher des bénéfices records. L'État ne s'en préoccupe pas beaucoup, comme nous l'explique une syndicaliste proche de l'opposition sociodémocrate, Emina Abrams-Dotter.
Rien n'est fait pour s'assurer que le code du travail est bien respecté. En Herzégovine, nous avons même 2 cantons qui n'ont carrément pas d'inspection du travail. Mais ce serait faux de dire que tous les employeurs ne respectent rien. Il y en a qui sont corrects. Mais il y a beaucoup de cas d'employeurs qui ne respectent pas la loi et qui ne sont pas sanctionnés. Encore aujourd'hui, en Bosnie-Herzégovine, il y a des entreprises qui ne paient pas les salaires régulièrement. Ça peut aller de 2 ou 3 mois de retard jusqu'à plusieurs années.
Des entreprises peu regardantes sur les cotisations sociales, cela existait déjà à l'époque communiste, mais depuis 20 ans, le phénomène a pris de l'ampleur. Beaucoup de Bosniens découvrent, au moment de prendre leur retraite, que leur employeur n'a pas cotisé. C'est le cas de la mère d'Azra. Cette ancienne ouvrière du textile a plus de 60 ans.
Je suis née à la fin de l'année 1981. Et depuis le début 82, ma mère n'a aucun trimestre de cotisation à la retraite. Pourtant, elle a travaillé, même pendant la guerre, jour et nuit, pour un salaire misérable de 100 euros. Là, elle voudrait faire valoir ses droits à la retraite. Mais elle ne peut pas. Au lieu d'avoir 22 ans de cotisation, elle n'en a que 14.
Pendant ce temps, les gouvernements des deux entités de ce pays divisé légifèrent sur des lois qui ont peu de chances d'être respectées. L'année dernière, une nouvelle loi travail a été votée à la demande de l'Union européenne et du FMI. Le recours au CDD et au licenciement est facilité, les syndicats marginalisés. La loi apporte aussi quelques progrès, mais en réalité, les salariés en bénéficient seulement si leurs employeurs le veulent bien. Emina Abrams-Dotter.
Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les salariés, le fait que leur congé payé passe de 18 à 20 jours? Rien du tout. Ça concerne seulement les gens qui ont de bonnes situations. Mais pour les employés de la grande distribution, du commerce, de la restauration, pour ceux qui travaillent dans les salons de coiffure, dans l'industrie, ça n'a aucune importance. La loi n'est pas respectée. Ils n'arrivent même pas à prendre leurs 18 jours de congé.
Du coup, les postes de fonctionnaires font rêver, mais les dépenses publiques pèsent la moitié du PIB du pays. L'administration dévore les 3/4 du budget de la fédération, l'une des 2 entités bosniennes. Ce millefeuille administratif issu des accords de Dayton qui ont mis fin à la guerre en 1995 a un coût et il ne favorise pas le démarrage économique.
La crise politique bat son plein en Roumanie entre le président Ioannis et le chef de la majorité, Liviu Dragnea, qui souhaite prendre le poste de Premier ministre. Rien ne va plus. La loi empêche normalement ce dernier d'accéder aux plus hautes fonctions, car il a déjà été condamné par la justice. Mais voilà que le défenseur roumain des droits des citoyens lui apporte son soutien. On retrouve Benjamin Ribou à Bucarest. Racontez-nous l'origine de ce conflit.
Alors, Victor Ciorba, le défenseur roumain des droits des citoyens, est considéré comme un proche de Liviu Dragnea, le chef du Parti National Démocrate, qui vient de remporter largement les élections législatives de décembre dernier. Malgré sa victoire, Liviu Dragnea n'a malheureusement, pour lui, pas réussi à obtenir ce qu'il voulait, le fauteuil de Premier ministre. droit dans ses bottes. Le président libéral, Klaus Johannis, avait en effet martelé qu'il ne validerait pas sa nomination du fait que Dragna a été condamné à 2 ans de prison avec sursis en avril dernier pour fraude électorale. Ce dernier, furieux, a donc nommé un autre Premier ministre, accepté par le président. Cependant, Liviu Dragnea n'a pas cessé de répéter qu'il visait toujours ce poste. Le nouveau gouvernement à peine nommé, la loi empêchant les élus condamnés d'occuper un poste au gouvernement, elle revient donc sur le tapis avec la saisie du Conseil constitutionnel.
Et sur quoi se base le défenseur roumain des droits des citoyens pour remettre en cause une loi qui a plus de 15 ans ?
Il faut bien comprendre que ce défenseur, qui représente une institution indépendante dont le but est de protéger les droits des citoyens, possède la compétence pour contester cette loi devant le Conseil constitutionnel. Il se base sur le fait que ce texte de 2001 enfreint le principe de l'équilibre des pouvoirs, car il concerne uniquement les candidats à un poste ministériel. En gros, selon lui, la loi devrait concerner aussi les autres pouvoirs. En marge de la légitimité de la démarche, c'est l'opportunité qui dérange, car cette loi fait la une de l'actualité depuis plusieurs semaines et cristallise en fait le bras de fer entre le président Ioannis et le leader démocrate.
Et Benjamin, quelles sont plus largement les réactions ?
Le parti présidentiel a demandé la démission du défenseur des droits des citoyens, l'accusant de servir les intérêts privés d'un homme politique condamné et de séquestrer aussi l'État. L'opposition, les analystes et la société civile aussi sont inquiètes de possibles dérives de la part de ce gouvernement démocrate. Principal motif d'inquiétude, la justice, où la Roumanie a enregistré beaucoup de progrès ces dernières années. L'un des artisans de ce succès, l'ancien Premier ministre Dacian Cioloș, vient de fonder une ONG afin d'aider les partis d'opposition. Il a reçu un message de félicitations de la part de Jean-Claude Juncker pour son mandat et la lutte qu'il a menée contre la corruption. Rappelons que plusieurs députés démocrates, tout comme d'autres partis d'ailleurs, ont été condamnés par la justice. L'actuel gouvernement comprend plusieurs personnages douteux et soupçonnés de faits de corruption. Pour l'anecdote, le nouveau ministre de la Justice, Florin Iordache, avait été l'artisan en 2013 d'une loi, depuis avortée, visant à obtenir la super-immunité parlementaire.
Benjamin Ribou, à Bucarest, en Roumanie. Record de froid sur toute l'Europe cette semaine pour tenir à distance les rhumes et autres virus grippaux. Les Turcs ont une recette ancestrale, des jus de légumes en saumure, le tourchou ou le chalgam. Anne Andlauer leur a trouvé de nombreuses vertus.
Contre la grippe qui guette, buvez des légumes en saumure et du jus de navet. Ceci n'est pas seulement un remède de grand-mère, mais une instruction très sérieuse du ministre turc de la Santé. Instruction superflue, la plupart des Turcs n'attendent pas le froid hivernal ou ses conseils officiels pour consommer ce qu'on appelle ici le tourchou et le chalgam. Le premier n'est rien de plus qu'une macération de légumes de toutes sortes dans une solution saumurée et vinaigrée. On y retrouve essentiellement des cornichons, des piments, de l'ail, des carottes et du chou. Mais en fait, la plupart des légumes, voire même certains fruits, peuvent être préparés en tourchou. On le consomme souvent sur le pouce, chez des commerçants ambulants, installé stratégiquement à côté des marchands de sandwichs au poisson. Le second breuvage, le chalgam, est tout simplement du jus de navet, spécialité du sud de la Turquie, notamment d'Adana, de Mersin et d'Osmanie. Le chalgam, de couleur rouge-rosé, assaisonné de sel et quelquefois d'épices, accompagne parfaitement les kebabs en tout genre. Antigrippal ou pas, on lui prête en tout cas moult propriétés. Il serait ainsi, paraît-il, un remède à la gueule de bois. Il est d'ailleurs parfois servi en même temps que le rakı, ce fameux alcool anisé, compagnon de soirée très courant en Turquie. Soyons honnêtes, autant la plupart des Turcs, y compris les plus jeunes, avaleraient des litres entiers de ces deux boissons fermentées, autant les papilles étrangères peuvent parfois avoir du mal à s'y faire. Un conseil, persévérer. C'est un peu comme l'ayran, ce mélange d'eau, de lait et de sel, dont les Turcs raffolent pour accompagner les plats de viande. Déroutant au début, on finit par s'y habituer et parfois à se surprendre à réclamer ces étranges décoctions.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr, rubrique émission Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute de RFI dans quelques instants. Un nouveau point sur l'actualité.